Bonjour David, bonjour à tous. Il l'a fait avec la manière, le skipper Charlie Dalin, donc passé la ligne d'arrivée du Vendée Globe peu avant 8h30 ce matin et inscrit pour la première fois son nom en haut du palmarès de l'épreuve. Les inquiétudes des artisans du bâtiment quant à la suspension de ma prime rénov dans un contexte déjà compliqué pour le secteur. Le maire de Saint-André-sur-Sèvre, Danny Grelier, présentait ses vœux en fin de semaine dernière, tout comme celui de Mauléon, Pierre-Yves Marolo. Le Grand Prix Auto Rétro Bressuret 2025 se prépare d'ores et déjà. Il aura lieu les 28 et 29 juin et mettra à l'honneur cette année la coccinelle Volkswagen. Et puis dans l'actualité sportive, cette semaine est marquée par le tournoi international de tennis organisé par le Tennis Club de Bressuire. Quant à la météo, du beau mais toujours du froid cet après-midi. Un incendie s'est déclaré ce matin un peu après 9h30 dans une chambre d'un bâtiment de l'unité de psychiatrie de l'hôpital de Niort, rue Jean Jaurès. Le sinistre aurait pris dans une chambre située au deuxième étage et a été fatal à une personne. Selon nos confrères de la Nouvelle République, un patient a voulu mettre fin à ses jours et a mis le feu à la pièce. Mais c'est un autre patient qui a trouvé la mort dans cet incendie. Son rêve s'est concrétisé. Leader sont discontinués depuis le 30 décembre dernier. Le skipper français Charlie Dalin franchit donc la ligne d'arrivée du 10e Vendée Globe à 8h24 précise ce matin. On se souvient que la défaite avait été cruelle il y a 4 ans. Si le skipper Havre avait été le premier à franchir la ligne d'arrivée au Sable d'Olonne en 2020, il avait été reclassé second par le jury qui avait rendu un temps de compensation à Yannick Bestaven pour s'être dérouté pour porter secours à Kevin Escoffier. Une édition 2020 où le skipper nous avait dit au micro-colline de Jacqueline Pinon qu'il se sentait fait pour le Vendée Globe et il l'a de nouveau prouvé aujourd'hui avec cette victoire qui ne souffre d'aucune contestation.
C'est vraiment un rêve que je nourris depuis vraiment longtemps. Je me prépare depuis de nombreuses années en fait pour cette course. J'y pense voilà, tous les jours, la nuit quand je me réveille. Je mange, je dors Vendée Globe depuis pas mal de temps maintenant. Le Vendée Globe, voilà, il y a beaucoup de gens qui l'appellent l'Everest des mers quoi.
Et l'œil pétille et l'ambition avouée, gagnée.
Oui, on se prépare en tout cas pour être en mesure de pouvoir gagner cette course. Après, c'est une course qui est longue, il peut se passer beaucoup de choses. Une course où il peut y avoir pas mal d'aléas. Donc voilà. Après, c'est le sport, c'est la course, on verra ce qui se passe. Mais en tout cas, aujourd'hui, on se prépare pour vraiment être en mesure de pouvoir aller chercher cette victoire. J'ai vraiment le sentiment d'être fait pour le Vendée Globe.
Charlie Dalin fait pour le Vendée Globe. Sur son IMOCA Massif Santé Prévoyance, le skipper normand entre dans l'histoire de la compétition avec un tour du monde à la voile sans assistance bouclé en 64 jours, 19h22min 45 secondes, pour être précis, soit 10 jours de moins que le précédent record établi par Armel Lecléache lors de l'édition 2016-2017. Johan Rickshaw, à bord de Paprec Arkea, devrait également signer son arrivée au Sable d'Olonne dans les heures qui viennent. Sébastien Simon devrait de son côté compléter le podium dans quelques jours. La CAPEB dénonce les conséquences désastreuses de l'absence de budget 2025, conséquences qui, selon la ministre déléguée au logement, va entraîner la suspension du versement des aides MaPrimeRénov. La Confédération de l'artisanat et des petites entreprises du bâtiment, qui compte 575 adhérents de Sèvres, s'alarme de cette situation. Écoutez Véronique Chantecaille-Beaumont, la secrétaire générale de la CAPEB des Deux-Sèvres.
Les dossiers qui étaient donc validés au 31 décembre vont bien sûr être payés, mais les dossiers qui avaient été déposés non validés, donc effectivement, pour le moment, il y a blocage donc, du versement des aides. Ça veut dire que les clients qui ont fait leurs travaux donc vont devoir bien sûr les payer, sauf que n'ayant pas le versement des aides, les artisans risquent bien sûr de ne pas être payés. Ça peut générer effectivement des problèmes de trésorerie pour nos entreprises, dont les clients, n'ayant pas le versement des aides, ne paieront pas leurs factures.
Les trésoreries peuvent donc être mises à mal dans un contexte déjà difficile. Ce n'est pas le moment de pénaliser l'artisanat du bâtiment et le secteur de la rénovation énergétique. Véronique Chantecaille-Beaumont, toujours au micro-colline de Fabien Gazot.
Le neuf qui est quand même en perte importante, la rénovation donc effectivement qui est en baisse aussi et qui était quand même portée par la rénovation énergétique. On avait obtenu d'ailleurs en plus le maintien donc du geste par geste pour 2000 jusqu'à la fin de l'année 2026. Sauf que là, on va générer encore une période d'inertie hein, du coup et le risque également aussi que les clients au regard de cette annonce-là, mettent peut-être en attente leur projet sans avoir de visibilité quoi, sur la suite à donner. Nous avons d'ailleurs interpellé ce matin même nos parlementaires, hein, puisque il va y avoir donc le discours de politique générale à l'Assemblée nationale, les travaux qui vont donc démarrer aussi hein, dans le cadre du projet de loi de finances. Et on a interpellé donc bien sûr nos parlementaires pour que ce budget puisse être voté rapidement et qu'on arrive effectivement à sortir de cette situation aujourd'hui très très compliquée. Et qu'on évite effectivement une nouvelle motion de censure qui aurait forcément des conséquences fortes pour notre secteur comme d'autres, hein, j'imagine.
Afin de ne pas bloquer totalement le dispositif, la CAPEB appelle à la poursuite de l'instruction des dossiers déposés par les particuliers et à l'adoption urgente du budget 2025 par les parlementaires pour le versement des aides au plus vite. Habiter un logement digne et adapté à ses besoins, c'est une des premières conditions de la qualité de vie. Or, en zone rurale, on le sait, les citoyens et les élus se heurtent à la crise du logement et ses problèmes connexes, insalubrité, passoires thermiques, liste d'attente ou encore accès difficile au crédit. C'est pour analyser la situation locale et les nouvelles solutions que l'Université citoyenne de Tours organise une conférence ce soir à partir de 20h30 à la station T près de la gare. Trois spécialistes de la question seront présents à cette réunion gratuite et ouverte à tous. Il s'agit de Marie Bou, directrice de la Maison de l'Urbanisme, et Flavino, chargé de mission à la communauté du Touarçais, ainsi que François-Xavier Berthaud, directeur de l'ADIL des Deux-Sèvres, l'agence départementale d'information sur le logement. Les vœux du maire de Saint-André-sur-Sèvre en fin de semaine dernière. Danny Grelier avait en effet invité la population pour cette traditionnelle cérémonie qui a permis de rappeler les principaux investissements réalisés l'an passé, comme la création d'un city stade aux abords de la salle landrésienne ou encore la finition d'un nouveau lotissement. 2025 verra de nouveaux aménagements sécurisés pour les enfants et les plus âgés, toujours près de landrésienne, de manière à en faire un point central pour toute la famille. Une cérémonie de vœux que le maire souhaitait vendredi soir dernier pédagogique. Danny Grelier.
Au niveau national, on entend la dette de l'État, que les collectivités, les budgets augmentent et tout. Le budget de la commune au niveau, ce qu'on appelle le fonctionnement, c'est un peu complexe, mais entre le fonctionnement et les investissements, et tout ce qui est fonctionnement, depuis plus de 10 ans, n'a pas augmenté. Au contraire, on est toujours resté, on n'a pas encore dépassé des montants qu'on avait il y a 10 ans. Dedans, il y a les charges du personnel, hein, ce qu'on appelle le 0,12, hein, et les différentes charges, énergie et tout ça, quoi. Il a fallu qu'on fasse des efforts. On a un agent qui a muté là il y a quelques années, donc on a fait le choix de pas le remplacer, de façon à économiser au niveau des charges de personnel. On a fait appel à de la sous-traitance pour certains coûts réduire. On a optimisé certains travaux de façon à tout regrouper et avoir une offre plus intéressante que de les faire en plusieurs fois. Et tout ça aussi, je tiens à le préciser quand même, en ayant des taux d'imposition, je pense surtout à la taxe foncière et foncière bâtie et foncière non bâtie, hein. La part communale extrêmement faible, hein. On est à plus de 30% inférieur à nos voisins, quoi.
Les propos de Danny Grelier, le maire de Saint-André-sur-Sèvre. Très belle fréquentation aussi en parallèle dans la salle La Passerelle vendredi soir pour les vœux du maire de Mauléon. La ville affiche une belle santé, comme l'a souligné Pierre-Yves Marolo, à travers la somme des investissements consentis, 5 millions d'euros en 2024, à nouveau le même montant en 2025, pour des projets qui dépasseront le cadre de ce mandat.
C'est important d'avoir une commune qui a une capacité d'investissement importante, parce que, je l'ai dit ce soir, nous avons un gros patrimoine, nous avons beaucoup de bâtiments aussi, bâtiments de sport et tout, et chaque année il nous faut songer à réinvestir, mais c'est vrai que 5 millions d'investissements l'an dernier, 5 millions pour l'année à venir, c'est des sommes importantes qu'on n'avait jamais atteintes depuis un certain nombre d'années. Donc, et sans pour autant que la commune soit endettée, puisque notre taux d'endettement est inférieur à 3 ans.
Pierre-Yves Marolo, le maire de Mauléon, vendredi soir au micro-colline de Laurent Guichetot. Élève en classe de guitare classique à 6 cordes au conservatoire Tindeau de Thouars, Mylène Pasquet vient de valider son entrée en 3e cycle dans la pratique de cet instrument sous la direction de Bettina Alvari. Et surtout à 16 ans, il vient de décrocher la seconde place au Danubia Talents International Music Online, organisé à Budapest en Hongrie. Un concours qui met en lumière les jeunes virtuoses européens de demain. Mylène a soumis au jury une vidéo de 14 minutes où il enchaînait plusieurs morceaux à la guitare classique. Cette deuxième place entrouvre la porte d'un brillant avenir pour cet ado inscrit au conservatoire depuis 9 ans. L'association Auto-Rétro-Bressuret célèbre ses 20 ans. Les 120 membres de l'association le célébreront précisément lors du 17e Grand Prix historique de Bressuire, les 28 et 29 juin, pour un budget encore cette année d'environ 50 000 euros. Budget presque entièrement dédié à l'organisation de cette manifestation. Avec une entrée toujours gratuite, ce sont les partenaires, 150 à 180, qui permettent de l'équilibrer. Jean-Claude Fillon, le président de l'association Haut Micro-Colline d'Axel Guignard.
On équilibre le budget tous les ans. On fait un peu de bénéfice quand on a une bonne météo. Donc c'est toujours intéressant parce qu'on a quand même besoin d'argent. C'est un petit peu le nerf de la guerre. D'autant plus que notre manifestation veut rester festive et non payante. C'est une fête populaire. On veut que ça reste d'accès pour tout le monde. Donc il faut qu'on fasse nos recettes sur autre chose que sur le prix des entrées puisqu'on a la gratuité. Voilà un petit peu pourquoi on fonctionne comme ça. Les plateaux sont toujours les mêmes, qui sont en rapport avec les plateaux des années 50. Et en plus, la nouveauté, c'est qu'on a inclus un plateau moto et sidecar et qui fait partie des plateaux qui reviennent tous les ans. Et on a aussi un plateau d'un club invité. L'an dernier, c'était les sportifs des années 70-80. Avant, on avait eu les Simca, effectivement. Et cette année, ça va être le club des coccinelles Volkswagen.
Justement, en parlant de la coccinelle, on connaît ce fameux film que vous connaissez certainement avec la fameuse numéro 53.
Et elle y sera, mais ça sera pas la vraie, bien sûr. Mais on aura une réplique de la choupette numéro 53 sur le Grand Prix 2025. Oui.
L'événement est très suivi et grâce aux médias anglais, les pilotes et journalistes britanniques étaient encore plus nombreux en 2024. Jean-Claude Fillon, le président de l'association Auto-Rétro-Bressuret, est déjà totalement tourné vers 2025.
Je pense qu'on reste sur des choses traditionnelles. Il y aura peut-être une animation en plus qui n'est pas encore décidée pour peut-être l'inauguration. Il y aura des surprises. On a aussi un parking à côté du paddock qui est réservé pour les véhicules de collection, les clubs qui viennent en visiteurs, en invités, qui peuvent mettre leur voiture de collection. Ça fait un attrait supplémentaire. Tous les ans, ça change et ça fait de l'animation.
Vous avez parlé des bénévoles juste avant. Est-ce que vous comptez en apporter de plus en plus? Ça peut être des jeunes ou pas?
Ah ben là, on voudrait bien qu'il y ait plus de jeunes parce que c'est vrai que notre association, c'est pas forcément que des jeunes, c'est plutôt des personnes d'un certain âge. Mais on a une demande de plus en plus présente des jeunes qui veulent rallier notre association parce que la voiture rétro, c'est dans l'air du temps, c'est à la mode, si on peut dire. Donc ça attire pas mal de nouveaux adhérents et notamment des jeunes, effectivement.
Ouais, je vous rappelle que le Grand Prix historique de la ville de Bressuire se déroulera cette année les 28 et 29 juin. Et puis puisque l'on parle de sport mécanique, sachez que le réalisateur niortais Emmanuel Reyer présentera demain soir au Moulin du Roc à 20h son documentaire sur la tragédie du Mans en 1955. Lors de cette épreuve, une voiture avait percuté une foule de spectateurs, ce qui restera d'ailleurs l'accident le plus meurtrier du sport automobile. Malgré les 82 morts et plus de 120 blessés, les organisateurs avaient décidé de ne pas interrompre la course. L'enquête qui a suivi l'accident conserve encore de nombreuses zones d'ombre. À Bressuire, cette semaine est marquée par le tournoi de tennis international, tournoi ITF Futur, qui a débuté ce week-end avec les qualifications. Toute la semaine, les joueurs vont s'affronter dans les nouvelles salles du centre régional de tennis, Alkena, tel qu'il a été baptisé en fin d'année dernière. Il reste encore des travaux à effectuer sur l'ancien complexe, mais déjà les conditions d'accueil sont bien meilleures. Et comme d'habitude, la journée de demain mercredi sera celle des enfants qui vont envahir le centre régional de tennis pour admirer des joueurs de talent qui demain seront peut-être les futurs stars du circuit ATP. Michel Fortin, le directeur du Tennis Club de Bressuire.
C'est un moment important pour les enfants. C'est vrai que les enfants du club et du département, ça leur permet de découvrir un petit peu ces joueurs, de connaître un petit peu leur vie, de pouvoir récupérer un petit autographe, enfin voilà, de faire une petite photo et de garder un excellent souvenir et que pour eux, ça les prolonge dans la fin de saison, quoi.
Les nouvelles installations facilitent l'organisation du tournoi, c'est mesurable?
Ah, tout à fait. Hein, les joueurs, surtout au niveau spectateur. Les gens vont pouvoir venir assister aux rencontres dans les tribunes, surtout qu'il nous annonce une semaine un petit peu froide. Là, on s'installe dans les tribunes et on est vraiment super pour regarder tous les matchs. C'est des conditions d'accueil qui sont vraiment superbes.
Michel Fortin, le directeur du Tennis Club de Bressuire, qui organise donc toute la semaine ses internationaux. Le tirage au sort de la Leaders Cup de basket en fin de matinée ce mardi à l'hôtel de ville de Caen. La compétition aura lieu les 14, 15 et 16 février prochains et regroupera les 8 premières équipes de Betclic Elite après la phase aller. À retenir d'ores et déjà ce derby de l'Ouest. Dès le premier jour, avec un quart de finale qui opposera Cholet Basket au Mans, les autres affiches, Paris Basketball face à Saint-Quentin, l'AS Monaco contre Bourg-en-Bresse et l'ASVEL sera opposé à Strasbourg. Les demi-finales auront lieu le samedi 15 février. La finale, lendemain.